Acte 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses chevilles et ses pieds devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Tout paraît si simple. C'est vrai que quand on lit ça, ça paraît si simple. Hein. Il y avait là un homme qui était boiteux à la porte du temple, Pierre et Jean qui passent, ils le regardent. Cet homme demande l'aumône et combien de personnes on peut croiser. Il suffit d'aller en ville ou à la sortie ou à l'entrée de grandes surfaces, de gens qui sont dans de grands besoins physiques, qui sont boiteux, qui sont infirmes, qui sont dans un état dénuement important. Et puis Pierre et Jean les regardent et disent « On n'a rien, on n'a pas, nous, quelque chose, on ne peut pas répondre à tes besoins financiers, mais par contre, on a quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ils le prennent par la main et le boiteux se lève et se met à marcher. C'est extraordinaire. Ça paraît tellement simple, tellement évident, ça l'est. Mais si c'était si simple et si évident que ça, pourquoi ne le vivons-nous pas au quotidien ? Est-ce que quelqu'un peut-être, et merci Seigneur, c'est possible, est-ce que quelqu'un en chemin a croisé un paralytique ou un mendiant ou un sidaïque ou un cancéreux et lui a parlé de Jésus et lui a dit, même, il n'est même pas dit qu'ils auront parlé, qu'ils auront témoigné de Jésus, mais ils lui ont dit, voilà, on a quelque chose, au nom de Jésus, lève-toi et marche, sois guéri. Est-ce que quelqu'un est venu avec un paralytique, avec un sidaïque, avec un boiteux? Non, et certainement dans la semaine on en a rencontré. Certainement dans la semaine. On n'a peut-être même pas fait trop attention, parce que ça fait partie de notre quotidien. Et en fait, on ne va pas voir ensemble détailler le miracle en tant que tel, mais nous attacher à l'environnement du miracle. Parce que finalement, le miraculeux, surtout quand il est au quotidien, n'arrive pas par hasard. Il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, comme ça. Il y a un environnement, il y a un contexte particulier qui permet au miracle de Dieu, au Dieu des miracles, de se manifester. Comme on l'a changé, comme on l'a chanté, Dieu est un Dieu merveilleux qui fait des choses grandes et merveilleuses. C'est vrai, Dieu n'a pas changé. Mais pour se manifester, Dieu a besoin d'un contexte particulier. Et d'ailleurs, on le voit, certains de nos pasteurs peuvent faire des missions, par exemple, en Afrique ou autre, et voir la main de Dieu se manifester avec force, avec puissance, par des guérisons, par des miracles, par des aveugles qui recouvrent la vue. Je me souviens du témoignage d'un pasteur que je connais bien, qui a vu de ses propres yeux, c'est le moment de le dire, des yeux se reformer. De ses propres yeux, il a vu ça. Des paralytiques qui étaient là avec des membres qui n'avaient jamais marché et se mettre à marcher. Amen.
Amen.
Mais ces mêmes pasteurs, quand ils reviennent dans le contexte que nous vivons, certes, Dieu continue d'agir comme il agit, ne soyons pas incrédules, Dieu fait des miracles au milieu de nous. Dieu agit.
Amen.
Mais il n'agit pas de manière quotidienne. Et ces mêmes pasteurs, quand ils arrivent et qu'ils retombent dans le contexte de leur église et de leur ville, de leur pays, bah, ces mêmes miracles ne se manifestent pas de la même manière. Même Jésus, à Nazareth, n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que le contexte n'était pas là. Donc on va voir les conditions finalement du miracle, l'arrière-plan du miracle. Connaissez-vous l'upsès PC? L'upsès PC, connaissez-vous ça? Vous ne connaissez pas? L'upsès PC, en fait c'est finalement, on peut dire, les conditions du miracle. Ce sont 5 lettres et ça peut résumer en tous les cas les conditions du miracle. Il ne s'agit pas d'un nouveau parti politique, rassurez-vous, ni même religieux, mais on peut dire que c'était le slogan de l'Église primitive, sa marque déposée. Le U de Upses PC, c'est le U de unité. Acte 3.1, il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et là, c'est l'un des grands secrets, finalement, de la manifestation du surnaturel, dont le terreau est l'unité, l'unité de l'Église. Et dont, finalement, le pesticide, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Unité de cœur, unité d'esprit. Et l'Église primitive le vivait, c'était pas seulement des mots, mais c'était une véritable réalité. Et on va dire, Pierre et Jean sont partis, ils sont là tout seuls, ils partent au temple pour prier. Mais c'était tout sauf des francs-tireurs, c'était tout sauf des électrons libres, mais ils étaient l'émanation de l'Église. Ils étaient portés, on peut dire qu'ils étaient imbibés de l'Église, ils respiraient l'Église. Finalement, comme la main qui peut être détachée à un moment donné du corps, s'éloigner, plus vous avez des grands bras et plus ça va se faire, ou avec le pied, mais finalement, la main, l'extrémité du doigt, qui peut faire des choses extraordinaires, elle n'est que l'émanation du corps. Elle n'est que l'émanation du corps. Et Pierre et Jean, c'est ce qu'ils étaient. C'est ce qu'ils étaient. Le groupe de louanges qui ira chanter à la fête de la musique. Le groupe quartier libre. Les aumôneries. Le travail fait à l'école du dimanche, qui ne se fait pas dans ce lieu-là, dans des petites pièces à côté. Les missions de formation de Philippe qui peuvent être effectuées dans les églises, dans ses différentes missions. Ses contacts avec les autorités, avec la ville. Son travail dans les écoles, le porte-à-porte qui est fait. Les ministères dons, les missionnaires ne sont que l'émanation du corps de Christ. Ne sont que des manifestations du corps de Christ. Et en tant que tels, ils doivent être portés dans le cœur de l'Église, ils doivent être portés dans la prière. Et on peut même dire que le fruit en dépendra. Pierre et Jean ne sont pas arrivés comme ça, au nom de Jésus, parce que je défie tout le monde. Au contraire, alléluia. Si quelqu'un peut le faire, il y a des boiteux, il y a des gens qui ont tellement de besoins. Allons dans les hôpitaux, croisons des gens, répondons sur nos lieux de travail. Et au nom de Jésus, prenons-les par la main. Et guérissons-les, permettons au Jésus qu'il soit guéri en son nom. Vous voyez, il y avait un contexte, ils évoluaient dans un contexte particulier, dans un contexte d'unité. Il est dit, tous ceux qui étaient, verset 2:44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. On voit une unité de lieu, d'espace, mais pas seulement. Acte 2:42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils aimaient se retrouver ensemble. 5:12, ils se tenaient tous ensemble au portique. Et même Pierre, c'était pas évident la vie des disciples au début, hein, pendant les 3 ans et demi avec le Seigneur. Il y avait toutes sortes de francs-tireurs, à ce moment-là, il l'était. Et Pierre a voulu se distinguer, justement, à plusieurs reprises, de ses collègues. Il dit, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. En fait, il se distinguait. Il se distinguait. Effectivement, il s'est distingué de quelle manière après. Parce que, effectivement, il a renié le Seigneur. Et de quelle manière? De manière lamentable. Comme nous, on aurait pu le faire, et comme on l'a fait, de bien des manières. Et le Seigneur ne lui en a pas tenu rigueur. Il l'a enseigné simplement. Mais on voit que la pierre est dans d'autres dispositions. Il est dans d'autres dispositions parce que, acte 1, verset 15, il est dit, « En ces jours-là, Pierre se leva du milieu de ses frères. » C'est différent, il ne se lève plus tout seul, il ne part pas tout seul en son propre nom. Mais il est au milieu de ses frères. Il a pris conscience qu'il était bien au milieu de ses frères, qu'il avait besoin de ses frères, qu'il n'était rien finalement sans ses frères. Et c'est nous, c'est notre cas finalement. Et Dieu pourra nous utiliser et glorifier son nom et permettre au miraculeux de se manifester dans la mesure où nous avons conscience que nous sommes des membres de cette Église, du membre de l'Église du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas des électrons libres. Acte 2:14, encore Pierre. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix. Certes, il accomplissait son ministère de leader, mais il se présentait avec les 11. Il n'était pas là seul dans son coin. Peut-on dire que l'individu n'est rien sans l'Église, comme le membre en dehors du corps ? En tous les cas, si... Bien sûr, on peut être isolé, comprenez-moi bien, c'est dans l'esprit, c'est pas dans la lettre. On peut être isolé pour X raisons. Vous pouvez être isolé chez vous par la maladie, par la vieillesse, vous pouvez être vous trouver en prison et vous êtes isolé physiquement du corps de l'Église. C'est pas de ça dont on parle. Pierre s'est trouvé, comment il s'appelle, Paul s'est trouvé à de nombreuses reprises isolé du corps, du rassemblement des chrétiens quand il se trouvait en prison. Mais d'esprit, il était un. D'esprit, il était un. Acte 4, 23, après avoir été relâchés, les disciples, il dit, ils allèrent vers les leurs. Ils allèrent vers les leurs. Après qu'on leur ait interdit d'enseigner au nom de Jésus, qu'on les ait mis en prison, ils sont relâchés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent vers les leurs. On voit, on comprend le contexte dans lequel le miraculeux a pu se manifester. On va retrouver cette priorité de l'unité dans les épîtres de Paul. Dans Éphésiens 4, versets 1 à 4, Paul va exhorter l'église d'Éphèse à marcher d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Il lui dira « En toute humilité, en toute douceur, patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc on voit, c'était une priorité. C'était vécu dans les actes des apôtres et c'était une priorité pour les apôtres dans leur enseignement pour les églises et pour nous aujourd'hui. Vous efforçant, ce qui veut dire que ce n'est pas si évident que ça finalement. Ce n'est pas si facile que ça. Nous sommes un en Christ, mais nous devons faire tous nos efforts pour conserver cette unité de l'esprit. Parce que notre chair ira complètement dans le sens inverse, dans le sens de l'individualisme. Moi je pense ça, moi je fais comme ça, moi je pense ceci. Et puis l'ennemi de nos âmes aussi, qui va chercher à mettre de la zizanie et autres, pour briser cette unité et pour empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Et pour empêcher le rayonnement de l'Église. C'est sa stratégie. Et donc nous devons faire tous nos efforts pour conserver. On n'a rien à créer. Jésus nous a assemblés en tant que corps. Donc on n'a pas à créer un corps. Mais on a à conserver ce que Jésus nous a acquis. D'ailleurs, c'est pour beaucoup de choses. Jésus a tout accompli pour nous, il nous a tout acquis. Et nous devons conserver. Pas chercher, besoin d'aller chercher autre chose, d'aller chercher ailleurs, nous avons tout pleinement en lui. Il ajoutera, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi. Paul le redira dans Philippiens. Il dira, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, quelque communion d'esprit, quelque compassion, quelque miséricorde. Donc on le voit, il y avait dans l'église de Philippe, de bonnes choses. Il y avait de l'amour, il y avait du soulagement dans l'amour, il y avait de la communion, d'esprit, de la compassion, quelques miséricordes. Mais finalement, c'était au compte-gouttes. Et Paul va rajouter, il va dire « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Rendez ma joie parfaite. » Et je pense qu'il se fait le porte-parole de Dieu, du Seigneur Jésus, par rapport à l'Église. Merci pour ce qu'il y a. Mais il dit, mais rendez ma joie parfaite. En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça ne se fait pas comme ça, parce qu'on le proclame. Mais on doit simplement, en tous les cas, chacun pour notre part, chercher à y travailler. Et mettre notre petite pierre. Pour atteindre ce but. Effectivement, et vous relirez dans le contexte de Philippiens 2, du verset 1 au verset 4, il leur dit ça parce qu'il y avait finalement du parti pris. Il y avait de la recherche de la vaine gloire. Certains cherchaient à se montrer. Il y avait de l'orgueil, il y avait du sentiment de supériorité. Et il y avait de l'égoïsme. Priorité également, on le voit dans les épîtres de Pierre. 2 Pierre 1, du verset 5 au verset 7. Pierre dira, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Plusieurs éléments. Mais à la fin, il dira, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. L'amitié fraternelle, l'amour. Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus si facile que ça, si naturel que ça. On doit aussi faire des efforts et faire tous nos efforts pour joindre à notre foi sur la base de laquelle nous sommes sauvés. Nous devons faire des efforts dans le sens de l'amitié fraternelle, dans le sens de l'amour selon Dieu. La lecture d'acte 1, acte 2, pardon, et dans la suite à partir du verset 1, en fait c'est cet événement unique qui a scellé la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. C'est la naissance de l'Église. Et je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu. en préparant ce message, ça m'a interpellé. Il est dit, acte 2, verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient, donc les 120, tous ensemble, dans un même lieu. » Donc on a vu encore cette unité. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Amen. Combien de fois on a entendu ce message ? Mais pour l'une des plus glorieuses visitations que l'Église ait jamais connues, dans quelle disposition se trouvait l'Église ? Dans quelle disposition se trouvaient les 120 ? Dans l'unité, ça c'est vrai, ça on l'a vu, dans l'unité. Comment ? Dans l'attente ? Et puis plus simplement ? Oui ? Ils étaient assis. C'est surprenant ? Ils étaient assis. Pour recevoir la plus glorieuse visitation que l'Église a jamais connue. Ils étaient assis, il n'y avait pas de gesticulation, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas de banderole agitée de droite, de gauche. Il n'y avait même pas de musique, il n'y avait rien, ils étaient simplement assis, parce que ça a duré des jours et des jours. Et probablement au départ, ils devaient être manifestés de toutes sortes de manières, mais là, ils étaient assis, ils persévéraient dans la prière. Vous me direz, il y a eu du bruit, certes il y a eu du bruit, mais le bruit... Il venait d'en haut, il est venu d'en haut. Il n'est pas venu d'en bas, il est venu d'en haut. Et un bruit plus que nous ne pourrons jamais en faire, tous réunis. Quel enseignement pour nous. Finalement, ce dont le Saint-Esprit a besoin pour se manifester, ce n'est pas d'un climat, d'une ambiance humaine qu'on va fabriquer. Mais ce sont des cœurs sincères, des cœurs assoiffés de lui, qui sont prêts à persévérer sans se relâcher pour le voir agir. Ce sont des cœurs qui sont prêts à payer le prix dans la prière, finalement, quelle que soit la position physique dans laquelle on se trouve. C'est de la simplicité, il n'y a rien de surjoué, c'est de la spontanéité. Ce qui compte, ce n'est pas la position de notre corps, mais c'est celle de notre cœur, et Dieu ne s'y trompe pas là-dessus. Plus que l'organisation du culte, c'est la soif et la disposition spirituelle que Dieu voit, et qui va compter, qui va amener la bénédiction. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas chercher à nous faire plaisir ou à vivre avec ce que nous sommes, avec notre époque, en mettant la forme qui nous convient. Mais ce sera pour nous. Pour Dieu, ça ne changera rien du tout. Nous pouvons sauter, faire le tour, pouvons danser, pouvons nous lever, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons nous prosterner à genoux par terre. Nous pouvons nous agenouiller sur les chaises. Soyons libres, faisons comme... Mais ça ne changera strictement rien, ce n'est pas ça qui va amener la bénédiction. On ne fabrique pas, on ne crée pas une bénédiction. Dieu a besoin d'un climat qui n'est pas un climat humain, mais c'est un climat spirituel. Et là, Dieu envoie sa bénédiction. On n'attire pas la présence de Dieu par l'ambiance. Et ça m'a fait penser, vous savez, au défi d'Élie sur le mont Carmel. Il se trouve là, face, alors qu'il n'a pas plu depuis 3 ans et demi, il se trouve là face à Akab et aux 850 prophètes, les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Et il va mettre à défi ces prophètes, ces faux prophètes, et prendre à témoin le peuple et le roi Akab en leur disant, voilà, eh bien, vous allez prendre, vous, ces prophètes, vous allez prendre un taureau, vous allez faire votre autel, vous allez le couper en morceaux. Et puis moi aussi, je vais prendre un taureau, je vais prendre mon autel, je vais les couper en morceaux. Et vous n'allez pas y mettre le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Alors, il dit, commencez, vous êtes plus nombreux, commencez, ils vont apprêter les 850 prophètes. Ils vont couper en morceaux, ils vont être là. Et puis ils vont commencer, il est dit qu'ils vont se faire. Ça va durer un certain temps, plusieurs heures, et puis il est dit qu'ils vont invoquer leur Dieu. Ils vont sauter, ils vont se faire des incisions, selon leur coutume. Et puis rien du tout. Aucune réponse, aucun feu d'en haut. Alors Élie, lui, le taureau va être coupé, il va dire, bah, faites autour, creusez. Creusez autour un fossé. Mettez-y de l'eau, remplissez le fossé d'eau. Et puis les morceaux coupés, versez de l'eau en abondance. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit simplement que Élie, il va invoquer l'Éternel. Et Dieu va répondre par le feu. Il va consumer non seulement l'holocauste, mais il va consumer le bois, les pierres, la terre, tout va être consumé. Dieu va répondre par le feu. Élie a simplement invoqué l'Éternel. Il était dans les dispositions spirituelles qui permettaient à Dieu de se manifester avec force et puissance et de se manifester par le feu d'en haut, non pas par le feu d'en bas. Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, littéralement un cœur vrai, dans la plénitude de la foi, littéralement en pleine assurance de foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. » On le voit, il n'y a rien d'extérieur finalement là-dedans. Ce que Dieu veut, c'est un cœur sincère, un cœur vrai. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Il veut aussi la plénitude de la foi. Il veut qu'on soit dans la foi. On peut s'approcher si on n'est pas... La seule chose qui plaise à Dieu véritablement, c'est la foi. Sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Donc on peut faire toutes sortes de choses, dire toutes sortes de choses. Mais si dans notre cœur, il n'y a pas la confiance en Dieu, la confiance en sa parole, si on ne s'attend pas à recevoir de Dieu, ben on ne recevra pas. Et bien souvent, bien des choses ne se font pas parce qu'au fond de notre cœur, on ne croit pas vraiment. On ne croit pas vraiment. Il faut peut-être avoir l'honnêteté de dire comme cet homme, « Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur, afin que je te croie, afin que je croie ta parole. » Et ça, ça nécessite de la vérité. Mais pourquoi, Seigneur, tu réponds ? Mais est-ce que tu crois vraiment que je peux répondre ? Le Seigneur nous dit, mais est-ce que tu crois vraiment ? Est-ce que tu crois vraiment ce que je dis ? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire qu'on a conscience véritablement que le sacrifice de Jésus est suffisant, que tout est réglé, que ça ne nous travaille plus, parce que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Les corps lavés d'une eau pure, on n'a pas de nouveau besoin d'aller nous laver, ça ne nous parle pas de la toilette du matin, ça fait simplement référence au baptême sous la nouvelle alliance, et puis ça peut faire aussi référence à ce qui se produisait sous l'ancienne alliance avec les ablutions. Donc on a vu le U, ensuite c'était le P de prière, acte 3.1, au temple, ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Acte 2.42, il nous est dit, ils persévéraient dans la prière. La prière, c'est la pièce centrale de la vie collective et individuelle de l'Église primitive. La prière. Rien ne se fera sans la prière individuelle et collective de l'Église. Rien ne se fera sans la prière. Parce que la prière, c'est le signe de notre dépendance à Dieu. On ne peut rien par nous-mêmes. Donc si on n'est pas dépendant de Dieu, qu'on n'est pas réclamant, demandant à Dieu son secours, son aide, rien ne se fera. Rien ne se fera. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes capables, comme dit Paul, de concevoir quelque chose. Jésus, lui-même, l'a défini ainsi, finalement, son Église. Dans Matthieu 11, 17, il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Voilà, c'est comme ça que Jésus dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». L'activité principale de l'Église, ça doit être la prière. Ce doit être la prière. Et c'était le cas de l'Église primitive. Et déjà dans le cœur de Dieu, c'était le cas parce que Jésus cite un passage d'Ésaïe 56, 7. C'était déjà dans la pensée de Dieu. Tout avait commencé dans la prière, dans les actes des apôtres. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Donc déjà la prière était là au commencement. Avant même la naissance de l'Église, elle est née dans la prière finalement, l'Église. Elle est née dans la prière. Et elle s'est accrue, elle s'est développée dans la prière. Mais on va le voir au travers de ce texte de Acte 1,14, pas n'importe quelle prière. Les premiers disciples avaient compris l'importance de s'accorder, le secret de la prière d'accord. Pas seulement la prière, mais la prière d'accord. Ils étaient un devant Dieu, on l'a vu l'unité. Mais de telle sorte que même leur prière n'en faisait qu'une. La prière de l'Église, c'était la prière de l'Église et plus seulement des prières individuelles de chaque croyant, additionnées qui partaient de chaque côté. Dieu aime ce genre de prière, elle monte à lui comme une douce mélodie. On l'a chanté tout à l'heure, un doux parfum, la louange, quand les cœurs s'élèvent ensemble vers Dieu. Mais quand la prière de cœurs qui sont unis, qui sont d'accord, monte vers Dieu, alors Dieu se réjouit, ça monte comme un doux parfum pour lui. Matthieu 18 dira, verset 19, « Si deux d'entre vous s'accordent, littéralement sont d'accord, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée à mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Si deux d'entre vous s'accordent, c'est pas facile de s'accorder. C'est pas si facile que ça. Mais c'est tellement important. Les enjeux spirituels sont tellement importants. Le résultat de la prière d'accord, acte 4, verset 23 et verset 31, et lorsqu'ils eurent entendu le compte-rendu de Pierre et de Jean par rapport à leur emprisonnement et les menaces qu'on leur a faites de ne pas parler au nom du Seigneur, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Tous ensemble, ils ont élevé la voix vers Dieu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, il trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle puissance dans la prière ! D'accord. Quand l'Église se met d'accord pour prier ensemble, quand elle est unie et qu'elle prie pour des sujets ensemble, quelle puissance ! Même le lieu s'est mis à trembler. Cette même puissance est là. Dieu veut se manifester de la même manière. De la même manière. Dieu n'a pas changé. C'est peut-être l'environnement qui a changé. Ensuite, après le P, il y avait le, vous vous souvenez ? Le S. Le S de solidarité. 2:44-45, on revient aux actes. Il est dit que tous ceux qui croyaient avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. On voit là donc un acte spontané d'amour qui est poussé par des circonstances exceptionnelles et qui est basé sur le volontariat. Nous ne sommes pas bien sûr appelés à reproduire de manière exacte ce modèle de vie communautaire, car les circonstances étaient particulières. Mais le principe, l'esprit de la solidarité, il doit demeurer. Effectivement, il y a eu 3000 conversions d'un coup. Ils étaient à Jérusalem, ils venaient de différentes nations. Il a fallu nourrir ces personnes-là, il a fallu les accueillir. Et c'est comme ça qu'il a fallu s'organiser. Et en plus, ils se trouvaient tellement bien là. Ils ont été un peu au-delà de la vision du Seigneur. Parce qu'ils étaient tellement bien là. Un peu comme Pierre et Jean, dressons trois tentes. Nous sommes bien là, Seigneur, dressons trois tentes. Dans la présence de Dieu. Ils n'avaient pas la vision que le Seigneur leur avait communiquée d'aller par tout le monde pour annoncer ce message du salut aux nations. Donc ils étaient là, et ils voulaient rester là, ils voulaient bâtir. C'était un peu dans l'esprit un peu de humain de Babel, mais spirituel. On reste là, on se fait du bien ensemble. Mais la vision de Dieu, ce n'était pas ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et donc, ils ont organisé les choses de telle sorte que, eh ben, finalement, tous puissent rester, pouvaient rester. En plus, ils attendaient tellement au retour du Seigneur, qui était proche. Ce modèle de vie communautaire, on ne le retrouve absolument pas ensuite dans le Nouveau Testament. En plus, il était basé sur le volontariat. Mais, par contre, cet esprit de solidarité, il doit demeurer. On doit être capable de partager les joies comme les peines, les exaucements comme les fardeaux. 1 Corinthiens 12, versets 24 à 26, il est dit que Dieu a disposé le corps de façon à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tout les autres membres sont honorés avec lui. Amen. Qu'est-ce qui, dans notre corps, dans notre membre physique, est le plus honoré ? Les yeux, par exemple. Voyez les yeux. souvent très honorée, c'est ce qu'on voit en premier. Quand on regarde quelqu'un, on ne regarde pas ses pieds, on regarde ses yeux. Mais finalement, vous voyez, je trouve qu'il y a un enseignement. C'est que Dieu a disposé les membres dans le corps d'une façon particulière, de façon à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Dans le corps physique, ce qui, quelque part, manque le plus d'honneur, c'est ce qui est le plus visible. Parce que c'est aussi ce qui peut nous faire chuter, et autres. Les yeux peuvent nous faire chuter. La langue, on ne la voit pas, mais on l'entend, elle est tellement présente. Elle peut tellement nous faire chuter. Ce n'est pas des membres qui sont très honorables. Et en plus, on peut vivre sans œil. C'est dommage. Sans œil, un œil. Ou sans yeux, avec deux yeux. De même qu'on peut vivre aussi sans langue. Ce ne sera pas facile, mais on peut vivre sans langue. Par contre, peut-on vivre sans foi ? Peut-on vivre sans cœur ? Ça ne se voit pas. Et l'analogie dans l'Église, ce n'est pas forcément les membres qui sont le plus visibles, qui sont les plus honorables. Vous voyez ? Peut-être tu te dis, moi, on ne me voit pas beaucoup, je ne suis pas très connu, etc. Mais tu es peut-être tellement précieux, peut-être tellement plus précieux que ceux qui sont plus visibles. Parce que tu n'as pas besoin, le foie, il n'a pas besoin d'être devant. L'œil, il a besoin d'être devant. Il aime être vu, la langue, elle a besoin d'être entendue. Mais il y a des membres qui n'ont pas besoin. Vous voyez ? Comment Dieu équilibre les choses ? Il sait. Peut-être certains auraient préféré être des yeux. Peut-être certains auraient préféré être, vous voyez, une langue ou autre. Et puis Dieu vous a fait foi. Mais vous êtes essentiel dans l'Église. La solidarité, on le voit dans la suite des Actes des Apôtres, elle va être obligée de se manifester du fait de la croissance de l'Église. Elle va amener ses responsables à l'organiser, à l'institutionnaliser, au sein même de l'Église, envers les plus pauvres de ses membres, mais avec des règles qui sont quand même strictes et justes, notamment par rapport aux vraies veuves. Vous lirez ça, on n'a pas le temps de le lire, dans Actes 6, versets 1 à 5, et puis 1 Timothée, chapitre 5, versets 3 à 16, par rapport aux vraies veuves. C'est-à-dire par rapport à ceux qui avaient vraiment, qui nécessitaient vraiment, parce que les veuves, elles, n'avaient vraiment rien du tout. Il n'y avait pas le système social comme on peut avoir. Les conditions, c'est qu'elles soient vraiment veuves, vraiment seules, qu'elles aient minimum 60 ans, qu'elles soient femmes d'un seul mari, qu'elles aient élevé des enfants, qu'elles aient exercé l'hospitalité, qu'elles aient lavé les pieds des saints, qu'elles aient secouru les malheureux, qu'elles aient pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Donc il y avait des conditions bien particulières. Parce qu'on a vu aussi, dans l'histoire des réveils de l'Église, qu'il y a naturellement dans le cœur des chrétiens la générosité qui se manifeste. Quand il y a un réveil, c'est la nature de Dieu qui se manifeste. Mais des gens aussi extérieurs en ont profité. Certains ont abusé de la générosité des chrétiens. Et on voit que Dieu va codifier ça, au contraire, oui, une générosité qui doit être accordée à ceux qui ont vraiment besoin. D'une église à une autre également, cette solidarité. Les plus riches aidant les plus pauvres, Romains 15, 27 à 20, à 25 à 27. Je vais à Jérusalem, c'est Paul qui le dit, pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Paul va consacrer deux chapitres entiers par rapport à l'instruction sur la collecte. 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9. Il existe dans notre mouvement différents, organisations qui s'occupent également de par rapport à des églises qui peuvent être en France, mais des églises qui peuvent être à l'étranger, par rapport aux besoins pour aider. Vous avez l'AEP, vous avez l'action missionnaire, vous avez la mission intérieure. Et puis il y a parfois eu des aides ponctuelles qui se font, qu'on a connu. Vous savez, quand le tsunami a eu lieu, eh bien, les églises de France ont été sollicitées. Il y a eu une générosité très importante. Et c'est important que l'Église soit capable de répondre à des besoins, à des vrais besoins. Quand il y a eu les inondations dans le sud de la même manière, qu'il y a eu une église qui a été détruite, les églises ont été sollicitées, et il y a eu une générosité qui s'est manifestée. Ça doit exister dans l'Église, cette solidarité. Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait comme lettre ? Le F de fraction de pain. Il est dit, acte 2, 42, il persévérait dans la fraction du pain. Ça démontre la volonté des premiers disciples de mettre Jésus au centre de chacun de leur rassemblement, même quand ils se réunissaient dans les maisons. Les disciples avaient omniprésent et vivant à l'esprit la mort du Sauveur, ainsi que son retour prochain. La fraction du pain était une façon de se nourrir de cette réalité, de la mort de Jésus et de son retour, et de le repasser à l'esprit. c'est au travers aussi des emblèmes de la scène, c'est pas seulement quelque chose qu'on doit faire par habitude, il y a tout un symbole. 1 Corinthiens 11, verset 23, Jésus dira « Faites ceci en mémoire de moi ». Verset 26, il dira qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et au travers du partage du pain, c'était cette à l'esprit, les disciples avaient cette vision de la mort de Jésus, du sacrifice de Jésus et des conséquences de la mort de Jésus, bien sûr, incluant sa résurrection pour nous. Mais aussi son retour. Quand nous célébrons la scène, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et dans l'Église primitive, le retour de Jésus était présent. Il n'y avait pas cette idée qu'on est là pour tout le temps, qu'on doit bâtir, mais qu'on n'est que des voyageurs sur cette terre et qu'on n'est que passagers, on doit bien accomplir notre mission. Mais on bâtit pour l'éternité, on ne bâtit pas pour cette terre. Et ça, c'est important que, aussi dans notre cœur, il y ait cette conscience que nous ne sommes que de passage, que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Les signes sont accomplis. Jésus peut revenir. Jésus revient. Amen. Et si nous en sommes vraiment conscients, ça va changer notre façon de vivre sur cette terre. Ça va changer notre façon de nous engager aussi. Et puis, la fraction du pain, c'est la recherche de la communion spirituelle les uns avec les autres et avec le Seigneur. 1 Corinthiens 16, 10, il est dit « Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Donc il y avait ce désir aussi, au travers de cette fraction de pain, de se souvenir que nous sommes un corps et que nous partageons au travers de ces éléments-là une communion fraternelle unique et spirituelle avec le Seigneur, mais également les uns avec les autres. Ensuite, après le F, c'était le C, le C de crainte, la crainte de Dieu. Acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par la main des apôtres. C'est intéressant de voir le lien de cause à effet. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait. Un élément aussi important qui fait partie du climat spirituel. La crainte, elle vient naturellement avec la foi. C'est tout le contraire de l'incrédulité. C'est dans ce climat de crainte du Seigneur que le miraculeux peut se manifester de manière commune. La crainte de Dieu, c'est simplement la conscience juste de qui est Dieu. Qu'on ne rigole pas avec Dieu, que Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est Dieu. Alors c'est vrai que sous la grâce, on va dire que la crainte, c'est pas la peur, c'est évident, notamment par rapport au jugement, à l'éternité, notre salut. Mais nous comparaîtrons quand même devant le tribunal de Christ. Où là, nos œuvres, ce qu'on a reçu, notre salut, de quelle manière on l'aura mis en œuvre, on comparaîtra quand même devant le tribunal de Christ, chacun pour notre part. Ce n'est pas notre salut qui sera en jeu si on a gardé la foi en Jésus jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'on a fait de notre salut? Qu'est-ce qu'on a fait des privilèges spirituels que nous avons, de la liberté que nous avons d'annoncer Jésus? Et puis il y a quand même l'élément, ça vient tout de suite après dans les Actes des Apôtres, d'Ananias et de Saphira. Alors la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Mais Dieu n'est pas un homme, c'est aussi un feu dévorant. Dieu est patient, mais on ne se moque pas de Dieu. Il y a des choses que nous faisons, que nous ne ferions jamais si nous avions notre directeur là où nous sommes. Jamais nous le ferions. Mais nous le faisons devant Dieu, et ça ne nous dérange pas. Il y a des paroles que nous ne dirions jamais si notre directeur était là. Mais par contre, nous sommes libres de le dire comme ça, parce que Dieu dit rien, mais c'est pas parce qu'il dit rien. C'est pas parce qu'il ne dit rien. Et je crois que la crainte de Dieu doit s'emparer de nos cœurs. Non pas cette peur, mais ce respect. Dieu n'est pas un copain. Dieu n'est pas un copain. Puis le dernier point, le P, c'est le P de la parole. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et je dirais, voyez, c'était même en tout premier lieu. Il persévérait, avant de persévérer dans les autres choses, la communion, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. En tout premier lieu, et avant même la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, il y avait l'étude persévérante de la parole. Ils persévéraient. Ça me fait penser à Marie, qui fera sienne cette priorité. Dès que le Seigneur arrive, elle se met à ses pieds. Avant même le service, il y a cette parole de Dieu. Rien ne dit qu'après, elle ne s'est pas mise à servir. Mais il y avait cette priorité de la parole. Est-ce que c'est la priorité pour nous dans nos vies, le matin, comme on l'a chanté chaque jour ? Chaque jour, je veux étudier ta parole, je veux lire ta parole. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que la parole est au centre de notre vie, avant toute chose ? Ou quelle place a-t-elle ? Les chrétiens de Béret, pour eux, c'était important. Acte 17, 10. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ça va se traduire par quoi ? Il est dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur renseignait était exact. Ils ne se contentaient pas du culte, entre guillemets. Mais chaque jour, ils piochaient, ils puisaient dans la parole, ils faisaient des études personnelles. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce que nous nous contentons simplement du culte ? Est-ce que nous nous contentons simplement de prédications sur Internet ? Est-ce que nous étudions la parole de Dieu ? Est-ce que nous connaissons notre Bible ? Est-ce que nous aimons la parole de Dieu ? Relisez le psaume 119, méditez, étudiez le psaume 119. Quelle relation David avec la parole ? Quelle relation, David, avec la parole ? Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Tes préceptes font les délices, font mes délices. Ce sont mes conseillers. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel. Que tes paroles sont douces à ma bouche, plus que le miel à mon palais. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Comme un jeune me disait hier à la prison, il me dit, mais finalement, on trouve toutes les réponses dans la Bible. Mais oui, on trouve toutes les réponses dans la parole de Dieu par rapport à ce dont on a vraiment besoin. C'est sûr que si vous voulez savoir quel temps il va faire demain, c'est pas la Bible qui va vous le dire. Mais est-ce que c'est essentiel ? Mais par contre, on trouve dans la parole de Dieu toutes les réponses existentielles dont nous avons besoin. Toutes les réponses. Elle est utile à tout, la parole de Dieu. Elle doit redevenir et être au centre de notre vie. Et pour terminer, deux petites réflexions. La richesse même relative d'une église ne peut être un prétexte pour justifier l'absence ou le peu de miracles en son sein. On peut dire, oui, mais nous, dans nos pays, ce n'est pas possible. C'est possible dans les pays pauvres, mais dans nos pays, ce n'est pas possible. Verset 45, chapitre 2, il est dit qu'ils avaient plusieurs propriétés, des maisons qui les ont vendues, ce qui veut dire que certains avaient de certaines richesses. Ça n'a pas empêché la solidarité, ça n'a pas empêché la puissance de Dieu de se manifester. Donc le fait que nous soyons dans un pays riche, parce que nous sommes dans un pays riche, même s'il connaît la crise, par rapport aux autres pays du monde, nous sommes une église riche, si nous comparons par rapport aux autres églises du monde, ne doit pas être un prétexte pour dire que nous ne devons pas vivre et nous ne pouvons pas vivre le miraculeux de Dieu. Les premiers disciples l'ont vécu. Et la deuxième réflexion, c'est que la guérison ne s'est pas produite dans l'enceinte même du temple. Elle était à l'extérieur. C'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se produire des guérisons au milieu de nous. Mais la guérison, et d'ailleurs à ma connaissance, la première guérison divine que l'Église ait connue. Pas le premier miracle, mais la première guérison divine. Cette réflexion m'amène à dire que l'Église doit être présente et active. Elle doit être agissante, pas seulement en son sein, mais aussi dans le monde extérieur, à ses portes, au travers de chacun de ses représentants. Nous sommes appelés, nous allons rencontrer des gens qui sont paralytiques, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel, des gens qui sont boiteux, sur le plan physique, mais aussi spirituel, des gens qui sont incurables, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Et nous avons la solution. Peut-être que nous n'avons pas l'or et l'argent pour répondre aux besoins, et ce n'est pas notre travail de faire du social, mais d'être un organisme humanitaire, simplement. On a une autre vocation. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. En conclusion, les miracles au quotidien nécessitent un environnement particulier. Rappel, le U, ça correspond à quoi ? Unité. Le P, prière. Le S, le F et le C, crainte de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur.